BD Culte, une émission pour explorer une planche iconique du 9e art. Ce mois-ci, nous allons parler de L'Incal, de Jodorowsky et de Moebius. L'actualité, c'est la sortie d'une suite, encore une, Mental Incal, un jeu sur la transfiguration de John Dufoule et l'annonce d'un projet de film par Taika Waititi qui a massacré Thor au cinéma. Voilà, alors nous allons parler aujourd'hui de L'Incal Noir, le premier tome, on peut appeler ça Les Mésaventures de John Dufoule. Nous sommes sur une série en 6 titres, titres en miroir, L'Incal Noir, L'Incal Lumière par exemple, et on peut dire que c'est un des premiers space opéra métaphysique de la bande dessinée. Ces 4 albums, les 4 premiers, ont été pré-publiés dans Metal Hurlant dans les années 80-85, Metal qui fait son retour en kiosque en ce moment. Et le numéro 58 de Metal Hurlant voit le début de L'Incal Noir dont nous allons parler. Nous allons parler des planches 26 et 27 de ce tome. Et donc, effectivement, à cette époque, Moebius produit, tenez-vous bien, une planche par jour, donc 291, c'est énorme. En tout, il va faire effectivement entre 80 et 88 une œuvre énorme qui va marquer la bande dessinée, d'autant plus que c'est Yves Chaland qui fait la mise en couleur. Alors, parler de la rencontre et de l'alchimie entre les deux auteurs de L'Incal, à savoir Jodorowsky et Moebius, on peut dire qu'on a là un duo créatif avec Jodo qui serait plus le maître et Moebius l'élève. Ils se rencontrent en 75 sur le projet du film Dune, qui ne verra pas l'écran malheureusement, mais on a un documentaire sur la fabrication du film qui n'existe pas. On a Les Yeux du Chat, première collaboration, une illustration de Jodorowsky, enfin un texte de Jodorowsky illustré par Moebius. On a effectivement les 6 volumes de L'Incal, Le Cœur Couronné ensuite de 92 à 98, Griffes d'Ange en 94 et après L'Incal, mais Jean-Giraud Moebius ne va pas dépasser un tome. Et en tout cas, quand il en parle de ce travail avec Jodorowsky, il parle d'un travail de co-création en extase, notamment le travail sur les dialogues. Alors, Jean-Giraud Moebius, nous rappeler de ce grand maître du 9e art, né en 1938, il nous a quittés en 2012. Il est né à Nogent-sur-Marne, il est élevé par ses grands-parents, son père va lui donner quand même le goût de la science-fiction. Par la suite, il va illustrer beaucoup de magazines de SF ou de revues. Il va partir au Mexique avec sa maman, et là il va rencontrer Castaneda, les champignons et la mystique. Il va être élève aux arts appliqués, et notamment il va rencontrer Jigé, un des grands de la bande dessinée franco-belge, notamment avec Jerry Spring. Et il va faire un western sous le nom de Jean Giraud, qui est son nom de famille, Blueberry, avec Charlier, et puis Solo. Il va travailler sur la fin de Blueberry, avec le cycle Mister Blueberry, dont il assume le scénario. Il a tout un univers métaphysique. Alors là, c'est le nom. Il devient Giraud. Enfin, Giraud devient Moebius. C'est compliqué. Il y a 3 pseudos. Jean Giraud, Gir et Moebius au fur et à mesure des publication dans les revues. Cet univers va être partir d'une déviation. On va faire un détour par le guerrier du silence, Arzak, et rentrer dans le garage hermétique. Une maison d'édition, Edena, en 84, va permettre le développement notamment d'une série qui s'appelle Star Watcher et un grand succès aux États-Unis. Il va collaborer à énormément de revues. Alors ça commence par Cœur Vaillant, à Pilote, Harakiri, Metal Hurlant et L'Écho des Savanes. Jodorowsky, lui, il est toujours parmi nous. Il naît en 1929. Il naît au Chili, de parents immigrés de Russie. C'est un écrivain un peu mystique, un peu branché tarot. Et son œuvre majeure, c'est La danse de la réalité qu'il essaie d'adapter au cinéma. Le 3e volume est attendu peut-être un jour. On peut dire qu'avec Topor et Arabal, il rentre dans le mouvement du cinéma panique qui exacerbe les sentiments des spectateurs et fait réfléchir sur le sens de la vie. Il va travailler le mime avec Marceau. Il va travailler aussi avec plein de dessinateurs. On peut noter Georges Bess pour la très belle série Ruan Solo. Il va rénover le tarot de Marseille, puisqu'en fait, une partie des personnages de L'Incal vont être liés avec ce jeu mythique. Et il va aussi se confronter à la thérapie en écrivant sur la psychogénéalogie, en travaillant sur la psychomagie. Et en tout cas, dernièrement, on a eu, pour ses 90 ans, 12 volumes d'ouvrages scénarisés édité aux Humanoïdes Associés. Et le livre, l'œuvre dont on parle, est née d'un rêve lucide, et toute l'histoire était racontée comme les conteurs le faisaient, et Jean Giraud adaptait les dialogues en fonction des visions de Jodorowsky. Alors, les planches que nous allons écouter, il faut les remettre dans le contexte de l'histoire. Nous sommes dans un futur éloigné et dystopique. Nous avons un détective privé, John Difool, qui reçoit l'Incal Lumière. Alors, c'est une espèce de pyramide blanche au pouvoir extraordinaire. Il le reçoit des mains d'un Berg. Alors, un Berg, c'est un extraterrestre venu d'une autre galaxie qui ressemble à une espèce d'oiseau bizarre. Et ce Berg, il est en train de mourir. Et l'Incal est recherché par de nombreuses factions qui veulent l'utiliser pour leur intérêt propre. Alors, on a les techno-techno, une secte de scientifiques, le président et ses bossus, donc c'est un chef d'État dictateur, on a l'impérotaritz, un chef androgyne qui est à la fois siamois, homme-femme, relié par le dos, et on a bien entendu ces extraterrestres mystérieux, les Bergs. Et John Difool, lui, c'est le détective privé qui est un peu paumé dans tout ça, il s'échappe et il se retrouve entraîné malgré lui dans une aventure qui le dépasse totalement et qui va le transformer en sauveur des deux galaxies, peut-être s'il y arrive. Voilà, donc nous allons écouter les deux planches et revenir pour un petit commentaire.
Voyons maintenant cette petite merveille. En tout cas, il n'éblouit plus, c'est déjà ça. Une simple pyramide de cristal, sans rien de particulier, à part cette luminosité. Et pourtant, depuis que je l'ai portée en moi, je me sens Je suis sûr que la réponse à toutes mes questions est dans ce morceau de verre. Incal, qui es-tu ?
Oh ! Je suis l'Incal. Tu t'es enfin décidé à poser une question. Je suis fait ainsi. Je ne parle jamais le premier. Pourtant, notre temps est limité. Et nous avons beaucoup à faire tous les deux.
Extraordinaire ! Un ordinateur photonique miniaturisé ? Je comprends tout maintenant.
Tu te trompes, John Difool, et tu n'as rien compris. Je ne suis pas un ordinateur, je suis vivant, tout comme toi. Et les lignes de force du destin nous ont réunis tous les deux pour que s'accomplisse la justice.
Oh, hé, attention, moi je suis détective de classe R, je n'ai rien à voir avec la justice. En plus, j'ai les bossus du président aux fesses, moi, sans compter la police et les mutants des tuyaux d'aération.
Je sais tout cela. C'est pour cette raison que je dois te transformer.
Ah, mais non ! Je veux pas qu'on me transforme, moi. Je suis très bien comme je suis.
Non-sens. Tu ne sais pas qui tu es.
Bon, alors puisque tu sais tout, dis-moi comment échapper au président et à tous les autres. Dis-moi d'où tu viens, dis-moi où va ce train, dis-moi !
Le temps nous manque. Toutes ces questions recevront leurs réponses le moment venu. La seule question importante est « Qui est John Difool ?» Réellement. Ce qui oblige à demander « Combien sont John Difool ?»
C'est la question la plus idiote qu'on m'ait jamais posée.
Attends de connaître la réponse avant de juger. Je vais te... montrer.
Hey ! Mon Dieu !
Voici déjà un élément de la réponse. Tu vois que ta question n'était pas si idiote que cela. Te voilà deux. Te voilà maintenant trois. Les jambes, quatre. À présent seulement on peut poser la question. John Difool, qui est-ce ?
C'est moi ?
C'est moi ?
C'est moi ! C'est moi !
Donc vous voyez, là, on est dans un univers totalement méta, avec des personnages qui sont démembrés, hein, Difool se sépare en quatre. On voit mis en image par des couleurs éthérées, des couleurs blanches et du bleu, la moitié de la première planche est totalement consacrée à ça, c'est-à-dire l'idée de la métamorphose. Et on a cette espèce de projection d'un corps éthérique, on va dire, ou de Jodorowsky est très au fait de toute la mystique, hein, sur les différents corps subtils de l'homme. On a les quatre éléments, les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, qui sont aussi les quatre tempéraments que chaque être humain aurait en lui. Donc John Difool est séparé en quatre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va à travers cette histoire et à travers ce moment crucial de la métamorphose de John Gifull, découvrir les mois profonds de ce héros qui n'est pas uniquement un loser, il a un potentiel. Et effectivement, il a un élément rationnel, un élément un peu caliméro où il se plaint tout le temps, un élément de colère et un élément de dépression. Donc tous ces quatre éléments décomposés vont peut-être recomposer un héros au fil de notre saga. Alors, pour revenir sur John Gifull, c'est quand même à la base la figure du anti-héros. Sous le trait de Jean Giraud, sa physionomie va varier. Il va passer du bof au bellâtre en fonction des situations. Il passe du statut d'un détective de classe R au géniteur d'une planète entière. Il est amoureux d'Anima. Anima, c'est la gardienne de la lumière. C'est aussi le principe spirituel chez Jung. C'est le père de Solune. Alors Solune, l'enfant lune, l'androgyne parfait, qui va être éduqué par le Métabaron. Le Métabaron, c'est un mercenaire qui fera l'objet d'un spin-off dans la série, dans la galaxie de l'Incal. Et comme Tintin a son Milou, lui, il a son animal fétiche, qui est une mouette de béton, qui s'appelle Dipo. Mais ce Dipo joue souvent un rôle de psy vis-à-vis de John Gifull. Voilà. Alors, vous avez bien compris, on est dans un univers totalement métaphysique et un peu délirant. Une galaxie humaine de 22 000 planètes, une galaxie d'extraterrestres prédateurs, les Bergs. On commence sur Terre 21, la cité puits, avec un lac d'acide. On a Technogéa, la planète des scientifiques, une planète de métal. L'idée que les morts sont recyclés en robots, les cultes à la ténèbre avec un œuf d'ombre. On a une planète aquatique qui s'appelle Aquaen, mais c'est aussi une planète prison avec des méduses télépathes. Et enfin, une planète d'or avec un impératoritz androgyne. Donc vraiment, tout un univers qui quand même fait penser à l'univers de Frank Herbert. Donc effectivement, le fait d'avoir travaillé sur Dune a largement influencé nos deux créateurs. Alors, les influences graphiques de Jean-Giraud Moebius, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé son trait, qui a évolué tout au long de sa carrière. On peut dire qu'il a largement été influencé par les arts du 15e et du 16e siècle, avec des peintres comme Bruegel, Bosch et Gustave Doré. La BD réaliste, avec Joseph Gillin, avec qui il a travaillé sur des westerns. Le comics américain, il va dessiner un épisode du serveur Surfer avec Stan Lee. Et une grande liberté formelle, c'est-à-dire qu'on a un style enlevé qui n'est pas du tout académique. Il fait des crayonnés rapides, Jean Giraud, qui l'ancre très rapidement. Et en tout cas, dans les tomes 5 et 6, là, on avait un gaufrier très classique, très symétrique, et là, les cases vont exploser. On va être dans des grands moments de tension, d'énergie dans la fin de l'histoire. Alors, Jodorowsky, lui, dans son écriture, part du principe que la bande dessinée, c'est une poésie. Que finalement, dans ses histoires, il est au service de la manifestation de ce qu'il appelle le sacré et du développement de la conscience humaine. Donc forcément, on l'a déjà un peu entendu, il va convoquer les archétypes jungiens, l'androgyne, l'animal, la voix des rêves. Il va convoquer la symbolique alchimique. Les titres de la série font référence à la table d'émeraude, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, la quintessence. Les personnages sont référés au tarot. Le tarot, pour Jodorowsky, c'est un être vivant. John Gifull, c'est le foule, c'est le mat. Solune, c'est le soleil et la lune. On a les personnages de l'impératrice et du pape, qui sont des cartes du tarot. Le symbolisme est omniprésent dans cette saga. On a effectivement le cosmos, qui est un espèce de cristal, des éléments, un œuf, le soleil, l'or. Et donc, les six tomes, si vous voulez, c'est des personnages importants. Chaque personnage a son arc narratif. Et en tout, on va avoir sept personnages clés. Donc, sept étant le chiffre sacré, l'union du matériel et du spirituel, du 3 et du 4. Les thématiques varient largement. C'est un spectre très, très large. Finalement, la dénonciation du conditionnement médiatique, de la télévision et de la troisième dimension, d'un consumérisme outrancier, la pollution, les dérives de la biotechnologie, les sectes, le clonage, les drogues aussi, les virus qui apparaissent, le virus de Mérone notamment, qui rend les gens totalement, qui les pétrifie. Le sacrifice d'une partie des gens, et puis l'idée d'un polar à la Philip K. Dick qui apparaît. Alors, cette saga a une postérité énorme. On a, bien entendu, après raison commerciale peut-être aussi, Jean Gétoff qui va faire Avant l'Incal en 6 tomes, on va avoir le spin-off des Technopères, le spin-off des Métabarons, qui est très intéressant, 8 volumes par Carlo Jiménez. Et ensuite, une espèce de suite qui est plus ou moins réussie, on va dire 12 ans après, Moebius ne fait qu'un seul tome. Et Final Incal en 3 tomes en 2008, dessiné par le Mexicain Ladrone. Au final, 3 grands cycles qui restent vraiment un phare de l'histoire du 9e art. Alors, on peut se demander quel est le sens profond de tout ça. Est-ce que c'est juste du délire ou pas que ? Alors, on a un ouvrage publié en 69 et 89 par Jean Anestey qui s'appelle « Les mystères de l'Incal » qui vous permettra de creuser un petit peu plus. Alors, pour donner quelques éléments, l'Incal, pour Jodorowsky, c'est « l'Incal, Inco », l'appel intérieur du maître intérieur. Voilà. Pour Moebius, l'Incal, c'est le rêve humain qui tue le vieux dieu, c'est-à-dire créer une nouvelle spiritualité. C'est vrai que cette BD, elle est née d'un échec, l'échec de Dune, et c'est un changement de chemin, une déviation, comme dans le parcours de Jean Giraud. C'est une métaphore sur la chute de l'homme, qu'on voit tout de suite, la page 1 bis montre la chute de John DeFool. C'est un appel à se reconnaître soi-même et à se souvenir de son origine. Et on peut dire qu'on a là un grand syncrétisme ésotérique. John DeFool pourrait être une espèce d'ego en mouvement, en quête d'un androgyne, un peu comme la Joconde de Léonard de Vinci représenterait l'androgyne primordial. On a l'esquisse d'une nouvelle mythologie, hein, à la suite de Dune de Frank Herbert, quelque chose qui va un peu plus loin. Et ce qui est très beau, c'est finalement Jodorowsky, quand il revient sur son œuvre, il dit que l'Incal est toujours d'actualité parce que c'est une grande consolation de l'horreur de Lucibas. Et ça nous rappelle, c'est important aujourd'hui de bien l'avoir en tête, que rêver dans un monde difficile, c'est aussi quelque part survivre.